journal, c'est vous, Hélène Philly. Bonsoir, Hélène.
Bonsoir à tous. 120 services d'urgence en grave difficulté, du jamais vu, et le déplacement aujourd'hui d'Emmanuel Macron à l'hôpital de Cherbourg. Premier déplacement en un mois pour le chef de l'État qui peine à trouver une réponse forte au désarroi des soignants. La région de Kherson en Ukraine sera-t-elle bientôt rattachée à la Russie? Il va y avoir un référendum, signe que Moscou avance ses pions alors que l'Union européenne vient de décider un embargo pétrolier d'ici à la fin de l'année. L'actualité, c'est encore les voleurs qui ont profité du chaos de samedi au Stade de France. Les premiers suspects jugés aujourd'hui. Les salariés de General Electric de Belfort saisissent le parquet national financier contre les manœuvres fiscales du groupe américain. Et puis la diffusion télé qui ne passe pas, hein. C'est le match Novak Djokovic, Rafael Nadal sur Amazon Prime Video ce soir et qui provoque la colère de la patronne de France Télévisions. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, puisque c'est la journée mondiale sans tabac, c'est prévention dont on va parler ensemble parce que le dépistage systématique du cancer du poumon fait son chemin. Pourquoi ne pas venir tous les ans en effet faire un scanner exactement comme on fait des dépistages à de très grande échelle pour les cancers du sein, les cancers du côlon, les cancers du col de l'utérus. On verra pourquoi les scientifiques sont parfois partagés, on verra ce qu'on y gagnerait à vos questions, en tout cas au 01 45 24 7000.
France Inter.
Pas un médecin au tableau de service des urgences de Montluçon aujourd'hui dans l'Allier. Les urgences ont dû fermer. Deux mois que ça dure à Orléans. La CFDT lance une pétition. Et à Nancy, au service cardiologie, les syndicats déclenchent une alerte danger grave et imminent à cause du manque de personnel. Trois exemples dans l'actualité d'aujourd'hui d'un hôpital au bord de la rupture. C'est pour répondre à cette urgence qu'Emmanuel Macron est à Cherbourg. Le président à qui l'on reproche de ne pas avoir posé d'actes politiques forts depuis sa réélection. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Les soignants veulent du concret, mais le président, dans cette visite que vous suivez, n'avait pas vraiment de solution rapide à leur apporter.
Et non, il n'y a pas de baguette magique, admet d'ailleurs la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, avec qui nous avons échangé avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Le président, à qui ses médecins, ses aides-soignants, ses infirmières décrivent des conditions de travail de plus en plus intenables.
C'est nous qui formons les infirmières, mais on n'a plus le temps. On n'a même pas le temps de s'occuper des patients. Il y a des têtes pensantes dans les bureaux là-haut. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça.
Oui, la conviction, c'est qu'il faut aussi le faire à partir du terrain parce qu'on a fait parfois beaucoup de choses compliquées depuis en haut, comme vous disiez, dans les bureaux. Et il y a deux, trois choses qu'on peut faire qui sont, à mon avis, du bon sens.
Oui, ça c'est sûr.
Davantage d'écoute, de bon sens, c'est précisément ce qu'il est venu annoncer. D'abord, une mission d'un mois sur la crise des urgences à l'approche d'un été potentiellement catastrophique. Elle sera confiée au président de SAMU Urgences de France, un proche du chef de l'État, François Braun. Et puis dans la foulée, une grande concertation pour que les gens sur le terrain puissent décider de ce qui est bon pour eux, assure Emmanuel Macron. Et il veut faire la même chose d'ailleurs sur l'éducation, l'ébauche de sa fameuse nouvelle méthode, donc, à défaut de solutions immédiates et concrètes. Pendant que le président continue d'échanger en ce moment avec une poignée de soignants, d'autres, plusieurs centaines, manifestent devant cet hôpital de Cherbourg.
Simon Le Baron avec Nicolas Mathias en direct de Cherbourg. Vous évoquiez cette manifestation devant l'hôpital. Il y avait aussi aujourd'hui des travailleurs du médico-social dans la rue qui s'estiment oubliés du Ségur, de ces revalorisations salariales et qui manifestaient donc aujourd'hui un peu partout en France. Élodie, éducatrice spécialisée au service de protection de l'enfance, manifestée en Gironde.
Aujourd'hui, on marche sur des brins de paille. Tous les dispositifs médico-sociaux sont complètement saturés. Il n'y a pas de moyens, on manque de professionnels, il n'y a pas de lits. Aujourd'hui, on en est rendu avec des enfants avec des troubles psychiatriques aigus qui se font du mal et qui ne peuvent pas être admis aux urgences pédopsychiatriques parce qu'il n'y a pas de personnel, parce que tout a été drastiquement réduit. Et en fait, aujourd'hui, on est tous en train de se noyer, on assiste complètement impuissant à la maltraitance politique, à la maltraitance sociale. Voilà, donc aujourd'hui on se soulève et on crie notre détresse et la détresse des personnes qu'on accompagne.
Un témoignage recueilli par France Bleu Gironde au micro de Jules Brelaz. Emmanuel Macron en déplacement aujourd'hui qui jusqu'ici n'a pas voulu réagir au chaos de samedi au Stade de France. Trois enquêtes et rapports ont été commandés après les nombreux incidents avant la finale de la Ligue des Champions de football. Combien de phobies billets circulaient ce soir-là, on a encore du mal à savoir. Et est-ce que ce sont les seuls billets falsifiés qui ont provoqué la pagaille? Le ministre Gérald Darmanin et la ministre des Sports doivent être entendus demain par une commission du Sénat. Un énorme chaos donc dont ont profité certains. 6 personnes étaient attendues aujourd'hui au tribunal de Bobigny pour être jugées en comparution immédiate pour vol. Audience que vous avez suivie, Emmanuel Leclerc, bonsoir. Quel est le profil des prévenus ?
Eh bien, 3 jeunes péruviens d'abord, dont 2 qui vivent à Barcelone. Le 3e les a hébergés le temps d'un week-end près de Paris. D'habitude, on voit des Sud-Américains sur des affaires de pickpocket dans les hôtels de luxe, s'étonne un avocat habitué de ces dossiers. Là, à 3, ils ont dérobé 14 téléphones, sans doute dans les files d'attente des supporters espagnols. Un dossier renvoyé au 5 juillet prochain sur décision du tribunal. Journée trop chargée.
Et les 3 autres prévenus, Emmanuel, ont un profil un peu différent.
Un Algérien en situation irrégulière, surpris sur le quai bondé du métro ligne 13 près du Stade de France, après avoir dérobé là encore un téléphone sans que la victime ne s'en rende compte. La procureure réclame 10 mois de prison ferme pour avoir profité de ce contexte si particulier d'une finale de Ligue des Champions, mais lance l'avocat commis d'office Loïc Lequelec. S'il n'y avait pas eu 10 journalistes dans la salle, jamais on aurait demandé 10 mois ferme pour un téléphone dérobé sans violence. Jamais. Le tribunal condamne le prévenu à 6 mois de prison avec sursis. Le cas suivant était plus complexe. Un jeune Palestinien qui serait plutôt algérien, sans papier, un sérieux cocard à l'œil gauche, accusé d'avoir arraché un collier en or juste après le match. L'homme se rebelle, plusieurs jeunes entourent les policiers, une 50aine de jeunes gens. Un agent envoie alors une percussion, selon le terme policier, en fait un coup de poing, d'où le cocard, pour pouvoir maîtriser le jeune homme et l'embarquer plus vite. Au commissariat, un autre policier est pris à partie, blessé, fracture du poignet, 21 jours d'ITT. L'avocate affirme que ce n'est pas son client qui aurait arraché le collier au départ. Elle s'étonne que l'on n'ait pas récupéré des images de vidéosurveillance, il y avait des caméras partout. Le tribunal est en train de délibérer. Le parquet a réclamé 18 mois de prison ferme.
Emmanuel Leclerc en direct du tribunal de Bobigny. Et ce qui a contribué à la désorganisation samedi dernier, c'est aussi la grève sur le RER B. Eh bien, un nouvel appel à la grève est lancé pour vendredi soir, match de Ligue des Nations qui opposera la France au Danemark.
Après le charbon et le pétrole, l'Union européenne va-t-elle décréter un embargo sur le gaz pour sanctionner la Russie ?
Il ne faut rien exclure, a dit Emmanuel Macron à l'issue du Conseil européen en début d'après-midi. Mais si l'on connaît les réticences d'un certain nombre d'États membres et que l'on a vu déjà la difficulté de ce compromis trouvé sur un embargo pétrolier qui va priver la Russie de 300 millions de dollars chaque jour d'ici à la fin de l'année, la Hongrie bénéficie d'une exemption. 6e paquet de sanctions alors qu'en Ukraine, la Russie s'installe et pour longtemps dans les zones qu'elle contrôle. Un signe de plus aujourd'hui, il devrait bien y avoir un référendum à Kherson pour le rattachement de la région à la Russie. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Hélène.
Notre correspondant en direct de Moscou. C'est une annonce aujourd'hui du chef pro-russe de l'administration locale.
Oui, effectivement. Petit à petit, Moscou avance ses pions dans la région de Kherson et cela devient même extrêmement concret. Depuis aujourd'hui, par exemple, seuls les téléphones mobiles russes fonctionnent dans cette région du sud de l'Ukraine et la télévision de la Crimée locale m'a montré cet après-midi des files d'attente immenses qui se sont formées devant les magasins de téléphonie pour acheter des cartes SIM russes. Moscou a également commencé à introduire les paiements en roubles sur place. Le Kremlin a manifestement l'intention de procéder en fait comme en Crimée en 2014 et peu importe si la communauté internationale ne reconnaît pas cette annexion, comme l'a expliqué à l'agence TASS Kirill Stremousov, le chef adjoint de l'administration pro-russe de Kherson.
Vous vous souvenez tous que le référendum absolument légal qui a été organisé en Crimée n'a toujours pas été accepté par qui que ce soit, bien que tout ait été fait dans les règles. C'est pourquoi je dirais que la région de Kherson deviendra de toute façon, dans un avenir proche, un sujet à part entière de la Fédération de Russie. Et lorsque nous irons au référendum, ce que nous ferons, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, les habitants de la région de Kherson voteront à au moins 60, voire 70% pour l'adhésion à la Fédération de Russie.
On ne sait pas encore à quelle date ce référendum sera organisé, mais prochainement, assure l'administration locale. Actuellement, 1/5 du territoire ukrainien est sous occupation russe.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Et puis en bref, en Ukraine encore, la justice dit avoir identifié quelques milliers d'affaires de crimes de guerre dans le Donbass. Des meurtres, des tortures, mais aussi des soupçons de déportation de force d'adultes et d'enfants à plusieurs endroits de la Russie. Conséquence aussi de cette guerre, ces indicateurs économiques qui s'affolent. Contraction du PIB au premier trimestre en France, une inflation qui dépasse désormais les 5%. Et des ménages qui réduisent encore leur consommation, tableau peu réjouissant de l'économie dressé aujourd'hui par l'INSEE. La situation se tend encore un peu plus entre General Electric et ses salariés à Belfort, qui dénoncent depuis des mois les pratiques fiscales du groupe américain. Première plainte déposée en décembre dernier, mais le dossier n'avance pas au point qu'aujourd'hui, l'intersyndicale et le comité social économique décident de viser plus haut et saisissent le parquet national financier. Plainte déposée pour blanchiment de fraude fiscale, Claire Chaudière.
Pendant 4 ans, les syndicats épaulés par des experts ont accumulé les faisceaux d'indices, les preuves et les rapports. General Electric, disent-ils, a appauvri artificiellement l'entité de Belfort, explique Philippe Petit-Collin, secrétaire du CSE.
Nous, ce qui nous rapporte le plus d'argent, ce sont les pièces de rechange. Elles sont conçues aux États-Unis, fabriquées à Belfort, distribuées dans le monde entier. Et la majeure partie des profits sont localisés en Suisse, alors qu'il n'y a aucune substance économique.
Présomption de trop payer sur plusieurs redevances et sur la marge réalisée par l'entreprise. Au total, plus de 555 millions d'euros ont été indûment reversés à d'autres filiales de l'entreprise, selon l'avocate Eva Joly qui porte le dossier.
Et il s'agit bien de fraude fiscale. Année après année, vous dites aux salariés, il n'y a pas d'avenir ici parce que nous sommes déficitaires. Elle préfigure la fermeture du site, tout simplement. C'est pour moi ça qui est grave.
À cela s'ajoute le manque à gagner fiscal aussi pour l'État, un coût social alarmant pour Quentin Parinello de l'association Oxfam.
General Electric ne paye pas sa juste part d'impôt en France et on voit quelque part le délitement de tout le tissu économique local qui prend notamment sa source dans cette manipulation fiscale.
Jamais Bercy n'a validé un tel montage, répète-t-on ce soir dans l'entourage de Bruno Le Maire. General Electric assure de son côté respecter toutes les règles fiscales en vigueur.
Reportage Claire Chaudière. Ça sent le renouvellement à la tête des syndicats. Yves Verrier passe la main cette semaine à la tête de Force Ouvrière et à la CGT. Philippe Martinez prépare sa succession. Lui aussi va quitter ses fonctions en mars 2023 et il a un nom en tête pour prendre la suite. Marie Buisson, secrétaire générale de la Fédération de l'Éducation, la Recherche et la Culture.
3 mois déjà que le pôle dédié aux cold case, aux affaires classées, a été installé à Nanterre.
Et aujourd'hui, seule une juge d'instruction est en poste et une poignée d'affaires seulement sont traitées. Il faut aller plus vite, disent les familles qui placent énormément d'espoir dans ce nouveau pôle. Des associations de familles de victimes d'affaires non élucidées qui attendent que le travail se mette vraiment en route, Margot Steve.
Après les paroles, il faut des actes. Voilà en substance ce que réclament ces associations. 3 mois après la mise en place du pôle, l'impatience gagne ces familles. La petite sœur de Férouz Bendouyou a disparu en 1987. Elle n'a depuis jamais pu savoir ce qui lui était arrivé.
On ne peut plus s'offrir le luxe de perdre du temps. On attend quoi au juste en fait ? Que nous-mêmes on meure ? Non, là on a la création d'un pôle cold case. Qu'il faut c'est des moyens et que ça se mette en route une bonne fois pour toutes.
Comme des dizaines d'autres familles, Férouz Bendouyou attend toujours de savoir si le dossier de sa sœur sera repris par le pôle cold case. Une centaine d'affaires sont à l'étude, mais les investigations sont réellement relancées dans 7 cas seulement pour le moment. C'est trop peu, regrette maître Didier Seban. Il est spécialisé dans les affaires non élucidées et représente plusieurs familles de victimes.
Les dossiers n'arrivent pas aussi vite que les familles l'espèrent. Il y a trop de blocages dans les juridictions, trop de résistance, de parcours administratifs. Et on ne peut pas attendre.
Des blocages qu'il faut faire sauter rapidement pour que ce nouveau pôle ne se transforme pas en coquille vide, dit maître Seban. Avec les représentants d'associations de famille, il va demander un rendez-vous dès que possible avec le ministre de la Justice.
Margot Steve, du sursis pour 3 prévenus constructeurs et 2 relax pour l'architecte et le conducteur de travaux. Le jugement dans le procès de l'effondrement d'un balcon à Angers qui avait tué 4 étudiants en 2016. La politique et ses retours compliqués. 1 mois après la présidentielle, Conseil de Paris mouvementé à partir d'aujourd'hui pour Anne Hidalgo. Son score 1,7%, moqué par son opposante LR Rachida Dati. Et ce n'est pas simple non plus à gauche. La maire de Paris est opposée à la NUP, l'accord électoral pourtant signé par le PS pour les législatives. Elle soutient dans le 20e arrondissement la sortante socialiste Lamia El Haraj, élue en juin 2021 lors d'une partielle, mais qui se retrouve à nouveau face à Daniel Simonet, conseillère municipale La France Insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon. Daniel Simonet qui se désole de cette guerre à gauche.
On a dans le 20e une belle dynamique avec ce rassemblement, puisque vous avez à la fois tout le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, Génération, une bonne partie des socialistes, y compris le NPA, qui soutiennent cette candidature. Donc vous avez voilà, Lamia El Haraj et quelques personnes autour d'elle qui ne sont pas d'accord avec l'accord signé et qui engagent leur propre formation. Bon, bah, c'est la vie, ils y ont peut-être en dissidence. Moi, je suis très confiante. Vous savez, on a fait 45% sur la circonscription pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Peut-être qu'elle aussi elle a sa propre cohérence puisqu'elle était totalement opposée à tout rassemblement avec Jean-Luc Mélenchon juste avant la présidentielle. Hein, et elle avait mis plus d'énergie à critiquer Jean-Luc Mélenchon qu'à souhaiter l'union. C'est dommageable parce que ça fait le jeu de Macron, hein, ces dissidences, mais je sens vraiment un enthousiasme sur le terrain qui est manifeste.
Daniel Simonet avec Benjamin Mathieu. 11 autres candidats en lice dans cette 20e circonscription, dans le 20e arrondissement de Paris. Pour Ensemble, Mohamed Gassama. Pour le Rassemblement National, Marie-Josée Boulaire et Les Républicains, François-Marie Didier. La liste complète sur franceinter.fr. L'horaire est désormais connu, c'est jeudi 2 juin. Ce jeudi à 19h que les candidats qui se sont inscrits sur Parcoursup découvriront les réponses à leurs vœux de formation. Ils auront jusqu'au 7 juin pour y répondre.
Décidément, la diffusion du match Djokovic-Nadal sur Amazon Prime Video ce soir ne passe pas.
59e confrontation entre les deux géants du tennis. L'enjeu de diffusion forcément est énorme. Amazon Prime a beau avoir promis aux téléspectateurs qui pourraient le regarder gratuitement ce soir à partir de 21h. Il faudra quand même créer un compte avec son adresse mail. Laissez donc à la plateforme des données personnelles. Et tout ça, bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Hélène.
Provoque la colère de Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions.
Oui, dans une interview accordée au journal Le Figaro, cette dernière se dit en effet profondément choquée par la décision des organisateurs. Choix d'autant plus incompréhensible pour la chaîne publique que France Télévisions est le partenaire historique du tournoi depuis 35 ans et pour un événement financé en tout ou en partie par de l'argent public, ajoute Delphine Ernotte, avant d'exprimer sa crainte d'assister un peu plus encore à la privatisation du sport au détriment de ceux qui n'en ont pas les moyens. Alors la direction de Roland-Garros n'a pas souhaité répondre à ces déclarations, mais le tournoi précise ce soir que sa directrice est en contact quotidien avec tous les diffuseurs et surtout que le match est bien gratuit, contrairement tout de même, au communiqué publié la veille par Roland Garros et Amazon, hein, il faudra, vous l'avez dit, créer un compte avec un nom et un mail pour pouvoir suivre le match. Et précision apportée seulement dans la journée par la plateforme américaine. Impossible, dit-on, de faire autrement, comme pour toutes les plateformes télé. Gratuit, mais une façon de générer des datas, répond Delphine Ernotte, et donc d'avoir des mails pour de potentielles démarches commerciales à venir.
Fanny Lechevestrier, Novak Djokovic, Rafael Nadal, ce soir épilogue d'une journée qui ne manque pas de sel. Sur le court en ce moment, Carlos Alcaraz, l'Espagnol mené 2-7 à 1, le troisième qu'il vient de remporter face à Alexander Zverev, numéro 3 mondial. Et chez les femmes, impressionnante Coco Gauff, jeune américaine de 18 ans qui a rapidement battu sa compatriote Stephens pour rejoindre les demi-finales où elle défiera Martina Trevisan pour une place en finale. Vous avez remarqué, c'est toujours le métro d'en face qui arrive le premier, le bus, le train,
c'est comme à la caisse aussi.
Ou la queue au péage aussi, qu'on attend toujours plus dans sa file que dans celle d'à côté. Alors, quand finalement le métro arrive, il faut pas le rater. C'est un peu ce que se sont dit Jean et Louisette, un couple de retraités d'Aubervilliers qui n'aurait surtout pas voulu manquer aujourd'hui l'inauguration du prolongement de la ligne 12 jusqu'à Aubervilliers. Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, l'une des grandes villes de la proche couronne parisienne qui n'était toujours pas desservie, un chantier de 10 ans. Et donc un couple, Jean et Louisette, en inspecteur des travaux finis. Reportage signé à Gérard Mohamed.
Ils se sont installés devant la nouvelle bouche de métro sur la place de la mairie et sur des petites chaises pliées apportée spécialement pour l'occasion. Louisette et Jean attendent impatiemment l'arrivée du premier métro et de ses voyageurs.
On est très très bien.
Ah oui, on peut pas être mieux placé là. Eh ben on attend. Hein.
Soudain, Louisette a un doute.
T'as pas pris ton appareil photo
pour
prendre tous ceux qui vont monter.
Et non, Jean a oublié l'appareil photo à la maison, mais nul doute que ce moment restera gravé dans sa mémoire.
J'ai 89 ans, et donc il y a au moins 70 ans que j'entends mes parents dire à Aubervilliers, il y aura le métro un jour, il y aura le métro un jour. Et voilà, aujourd'hui, je suis là.
Marie-Françoise, leur fille, est présente aussi pour cette retraitée. Ce prolongement de la ligne 12, c'est surtout des trajets plus courts pour sortir à Paris.
Pour nous, c'est super pratique parce que pour aller à la porte de Versailles, on mettra plus que 20 minutes, voilà, au lieu d'une heure.
Et finalement, après une heure d'attente...
Ça y est, ça arrive. Il est là, le métro. On est contente comme tout.
On a vu le métro. C'était le principal pour nous. Après, avec l'ascenseur, on pourra se permettre de descendre. Et après, ben, on verra où on ira.
Car peu importe la destination, c'est le voyage qui compte. Et pourvu qu'il se fasse en métro pour Jean et Louisette.
Jean et Louisette dans le métro, bah oui, pour aller travailler aussi pour les autres. 40 000 nouveaux voyageurs sont attendus chaque jour sur la ligne 12. C'était un reportage France Bleu Paris d'Ajra Mohamed.
Bah voilà, joyeux voyage en métro. Merci beaucoup Hélène Philly. Évidemment, on se retrouve demain. Pour nous, ça continue avec le téléphone sonne. On va parler notamment dépistage du cancer du poumon avec nos invités. Un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Élodie Calac, souvent ensoleillé, voilà pour le temps demain, parfois instable.
Oui, des Charentes et de la Gironde vers l'Auvergne, ce sera encombré le matin avec des averses parfois orageuses. Alors ce temps glissera rapidement vers le nord des Alpes et le Jura, et de bons moments de soleil reviendront sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine pour l'après-midi. De part et d'autre de cette zone, beaucoup de soleil, à peine quelques nuages ici ou là pour décorer. Des nuages bas quand même sur les plages du Languedoc-Roussillon le matin, mais ça ne durera pas bien longtemps. Et puis un petit peu de vent, un vent de sud en moyenne vallée du Rhône, jusqu'à 40 km à l'heure. Et pareil pour le vent d'Autun, de l'Aude au Midi Toulouse.
Et sinon, la chaleur va gagner du terrain par le sud.
Oui, 32 degrés attendus à Toulouse, 31 à Agen, à Montélimar, 29 à Marseille, 27 degrés à Bordeaux et à Lyon, 26 à Strasbourg. Il fera 25 degrés à Nantes, 23 à Paris ou à Bourges, 19 degrés à Lille et à Brest et 15 degrés à Cherbourg. Et puis la hausse se poursuivra jusqu'à vendredi. Vous aurez une moyenne de 27 degrés au nord et de 30 au sud.
Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.